Au moment où on enregistre ce podcast, la campagne présidentielle américaine aura déjà coûté plus de 2,5 milliards de dollars.
C'est déjà beaucoup plus que les malheureux 143 millions qu'avait coûté celle de l'an 2000. Pourquoi y a-t-il autant d'argent maintenant dans les campagnes électorales aux États-Unis? Où va tout cet argent et d'où vient-il? On vous emmène dans les couloirs sombres et sinueux du financement de la politique américaine. Eric Guevara-Frey, passé par la correspondance à Washington.
Et Jordan Davis, l'américain de service.
Show me the money!
Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry, and so unproductive.
Washington DC, Para plus B.
This is not an ordinary election.
Bon, déjà, les États-Unis sont un grand pays, et même si les candidats concentrent leurs efforts sur les États clés, ceux qui font basculer l'élection dans un sens ou dans l'autre, eh bien, il faut payer du monde sur le terrain, il faut payer des voyages et de la publicité, beaucoup de publicité.
Et ce qui n'arrange rien, c'est que les campagnes présidentielles américaines durent très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'il y a 20-30 ans. En fait, les candidats se lancent de plus en plus tôt et il faut de l'argent pour tenir au moins un an et demi, au moins maintenant. Hein. Mais tout seul, ça n'explique pas pourquoi une campagne coûte bien plus de 10 fois plus cher aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans.
Non, pour ça, il faut revenir à un moment charnière, un verdict de la Cour suprême en 2010 qui a ouvert les vannes de l'argent politique. C'est le cas Citizens United, du nom d'une association de conservateurs qui a saisi la justice.
Today, the U.S. Supreme Court lifted a key limit on political contributions.
The sharply divided justices declared that the law violates the First Amendment's guarantee of free speech for all.
Ce jour-là, dans une décision retentissante, la Cour suprême a fait voler en éclats les limitations de dépenses politiques qui étaient imposées aux entreprises, syndicats et autres associations. Les juges ont décidé que ces contraintes, qui étaient vieilles de plus d'un siècle, violaient la liberté d'expression garantie par le premier amendement de la Constitution.
Et à l'époque, cette décision était un choc, elle était très contestée. Ses détracteurs d'ailleurs accusent la Cour suprême d'avoir dévoyé la démocratie en donnant un pouvoir disproportionné aux groupes d'intérêts privés et surtout fortunés, parce qu'on dit en fait que ça leur permet de s'acheter une élection.
En tout cas, les vannes se sont ouvertes le jour de ce verdict. Et en 2012, Barack Obama a battu un record avec la campagne électorale la plus chère de l'histoire jusqu'alors, 1,123 milliards de dollars. Et tout cet argent, il vient d'où?
And ladies and gentlemen, the best is yet to come.
I'm Donald Trump, and I approve this message.
It's why you stay up paying bills, worry about schools and healthcare. When Joe Biden traveled those 4 hours, he wasn't just going home for his kids. He was going to work for them too, just like he will for yours.
Bon, il y a les groupes d'intérêt, mais on va peut-être y revenir, parce qu'on va parler tout de suite des donateurs individuels, les petits donateurs comme toi et moi, bah surtout moi parce que je suis américain. Citoyen peut verser au maximum 2,800 dollars par élection. Donc les candidats aiment bien dire qu'ils reçoivent beaucoup d'argent de petits donateurs, 5, 10, 50 dollars, comme ça. Ça fait bien, ça fait très populaire, mais en fait, c'est un mythe. Parce que, en réalité, selon le Center for Responsive Politics, qui est un think tank qui suit de près le financement de la politique américaine, moins de 10% des Américains vont donner à une campagne électorale.
Le reste des sommes englouties dans les campagnes vient aussi de riches contributeurs qui, par un jeu d'addition de l'argent donné directement aux candidats, mais aussi aux antennes locales du parti, à des comités, etc., peuvent finalement donner en tout plus que le plafond légal de 2,800 dollars.
Oh, qu'est-ce que j'entends là? Oh, mais est-ce le bruit d'un banquet d'un hôtel un peu médiocre? Oh, mais c'est un dîner de levée de fonds, un fameux fundraising dinner.
Bah, on n'y va pas vraiment pour la grande gastronomie.
Non, parce qu'on dit souvent que c'est du rubber chicken, hein, du poulet caoutchouteux.
Ah, c'est du poulet cher payé en tout cas. Par exemple, pour participer à un dîner organisé ce printemps avec Donald Trump, il fallait débourser 580 000 dollars par couple. À ce prix-là, vous aviez le droit de parler avec le président, qui est candidat à sa réélection, de prendre une photo avec lui aussi. Alors, des opérations comme celle-là sont courantes aussi bien chez les républicains que chez les démocrates.
Absolument. Et des deux côtés, on peut lever 10 millions de dollars à la fois. Mais qui sont ces plus gros donateurs? Ça ne va pas vraiment vous surprendre. On parle de banques, assurances, groupes immobiliers. Et beaucoup pensent que ça crée des liens de dépendance. Même Donald Trump, en 2016, quand il promettait d'assécher le marécage.
Oh yeah, well, I mean, look, psychologically, yes, that's the way it is. Somebody gives them money, not anything wrong, just psychologically, when they go to that person, they're going to do
that. They owe them.
They owe them. And by the way, they may therefore vote negatively toward the country. That's not going to happen with me.
Bah évidemment, si quelqu'un finance ta campagne, tu seras plus volontiers tenté de décrocher le téléphone quand il t'appellera pour essayer de t'influencer, ce qui pousse des groupes à demander, et depuis longtemps, une réforme du financement de la politique.
Because politicians follow the money, and that means they work on behalf of who funds their campaigns. We're not going to gain any ground on these important issues until we first take on this system of corruption.
Campaign finance reform. Ah, j'ai l'impression qu'on en parle depuis que je suis né.
Oui, certainement. D'ailleurs, bon, tu n'étais pas né au moment du Watergate, Jordan. Ouf. Le scandale avait conduit à un durcissement des règles sur le financement de la politique. Il faut souvent un scandale pour qu'on prenne des mesures. Mais ensuite, la pression se relâche, l'argent coule de nouveau à flot, jusqu'au prochain scandale.
Mais là, on parle des contributions qui vont dans les caisses d'un candidat ou dans sa campagne d'élection, de réélection en tout cas. Mais la décision de la Cour suprême en 2010 a créé un nouvel acteur qui brasse beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et cet acteur n'est ni oiseau, ni avion, mais le Superman des groupes d'intérêt, le Super PAC.
Et dans Super PAC, il y a PAC, le sigle de Political Action Committee, Comité d'Action Politique.
Et là, ce sont des groupes politiques qui peuvent dépenser des sommes illimitées pour soutenir un candidat. Mais quand je dis soutenir, ça c'est parce qu'ils doivent rester totalement indépendants. Ils n'ont pas le droit de verser de l'argent directement au candidat et ils n'ont surtout pas le droit de coordonner leur action avec sa campagne officielle. En revanche, ils peuvent acheter beaucoup de pubs.
House Democrats should investigate one of their own, Joe Biden. Great America PAC is responsible for the content of this message.
Et juste avant une élection, les pages de pub à la télé locale sont entièrement remplies de messages politiques, souvent des negative ads, des pubs négatives qui servent à attaquer l'opposant.
Paid for by Humans for Prosperity.
Paid for by Second Amendment Protection.
Paid for by the Patriot Action
Committee. Paid for by.
Paid for by the Partnership.
Paid for by. Do you know what paid for by really means?
Et comme dans toutes les pubs politiques, le Super PAC doit s'identifier à la fin. Même si parfois le nom est tellement ambigu qu'on a du mal à savoir qui est vraiment derrière.
Bon, on a surtout parlé des campagnes électorales présidentielles dans ce podcast, ce balado. La situation est à peu près identique dans les campagnes pour le Congrès. Les règles sont similaires, les limitations, quand il y en a aussi. Jordan, la fameuse décision Citizens United de 2010 a aussi renforcé un phénomène qu'on voit à l'œuvre dans toute la politique américaine et il joue notamment un grand rôle dans les élections législatives.
Oui, ici, on parle de dark money.
Oula.
L'argent sombre. Ce sont des sommes dont on ignore la source. En fait, on ne sait pas qui a donné cet argent. La loi autorise les associations politiques sans but lucratif à masquer leurs donateurs. En fait, le nom va apparaître, mais sur une déclaration d'impôt quelques années plus tard, donc après l'élection. Et la proportion de dark money augmente régulièrement. Par exemple, en 2014, un quart de l'argent dépensé en faveur des campagnes sénatoriales les plus disputées était d'origine inconnue.
Ah, il faut dire que pour gagner ou garder son siège au Congrès, il faut beaucoup d'argent. On estime qu'un parlementaire américain passe jusqu'à 2/3 de son temps à lever des fonds pour sa réélection.
Et on peut comprendre donc ceux qui disent qu'il faut réformer le système. Il y en a qui disent qu'il faut plus de transparence, de nouveaux plafonds par exemple pour les contributions financières, la suppression des super PAC, le renforcement du financement public des campagnes. Parce que oui, en fait, il y a, existe théoriquement des mécanismes de financement public, mais les sommes maximales admises, donc les plafonds, sont tellement bas que plus aucun candidat ne veut s'imposer cette contrainte-là parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire face à leur concurrence.
Et l'argent étranger, Jordan, il est accepté dans une campagne électorale ?
Non. Enfin, en théorie, parce qu'il y en a qui pensent que le dark money, l'argent sombre, peut servir à masquer des contributions étrangères. Mais selon la loi Eric, tu n'as pas le droit d'acheter un t-shirt ou une casquette officielle d'un candidat si tu es étranger, parce que c'est considéré comme une contribution financière à la campagne. C'est donc strictement interdit. Enfin, pour toi, pas pour moi.
Dommage. Ce qui n'est pas dommage, c'est que toute la bande des correspondants de Washington DC reviendra avec un épisode tout neuf le 28 août.
Washington DC par A plus B. Réalisé par
Sandro Lichy.
I'm Jordan Davis and I approve this podcast.
Je suis Eric Guevara-Frey et j'approuve aussi ce podcast.